J'ai mis devant vos yeux la Sainte Vierge et Saint Joseph, une statue réalisée par un sculpteur polonais où l'on voit Jésus pesé de tout son petit poids sur la tête de son papa. Mais c'est une façon de montrer aussi que toute la tendresse de Joseph vient de Jésus. C'est Jésus qui a communiqué, bien sûr, à son papa toute la tendresse. Le culte de Saint Joseph a pris un sacré retard. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'il y ait enfin une chapelle dédiée à Saint Joseph dans le monde, la chapelle d'Avila, San José d'Avila, la chapelle de la réforme de Thérèse d'Avila. Et au siècle suivant, Jean-Jacques Ollier, le fameux fondateur des Sulpiciens, celui qui a aussi eu l'idée de faire renouveler la profession de foi à ceux qui faisaient leur première communion, a eu la bonne idée de montrer que Saint Joseph a été indispensable à Jésus pour qu'il puisse avoir dans sa conscience humaine une représentation humaine de la tendresse de son Père du Ciel. Jésus avait beau savoir qu'il était le Fils de Dieu en personne, il avait besoin d'en avoir une image humaine. Et c'est Saint Joseph qui a joué ce rôle. Quand Jésus nous dit « Si vous, tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Il pensait certainement à toutes les gentillesses que Saint Joseph avait pour lui dans son enfance. De l'autre côté, une icône vénérée à Cambrai, sous le nom de Notre-Dame de Grâce, et c'est la seule icône devant laquelle la petite Bernadette de Lourdes n'a pas fait la moue quand on lui a présenté des images de la Sainte Vierge. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, on a placé dans l'église Sainte Bernadette de Lourdes une reproduction de cette icône orientale. Vous avez des Américains qui viennent à Cambrai, non pas à cause des bêtises, mais à cause de cette icône, toute petite. On aime ou on n'aime pas, mais je pense que ce que Bernadette a aimé, c'est la douceur du regard de Marie. Et devant vous, une image réalisée par sœur Françoise-Emmanuelle de la communauté de Venières, près de Tournus, et que j'intitule « La pauvresse transfigurée ». Je salue parmi vous les peintres d'icônes, s'il y en a, c'est leur fête. Un iconographe n'est iconographe que lorsqu'il a peint une icône de la transfiguration. Car chaque fois qu'on met un peu de blanc sur le manteau de Jésus transfiguré, on espère être transfiguré à son image. Sœur Françoise Emmanuelle a fait cette belle image qu'elle m'a offerte d'ailleurs. Elle m'a offert l'original pour me remercier de mes bouquins. Et c'est une pauvresse, vous voyez, qui vient se jeter aux pieds de Jésus, agenouillée devant elle, et l'on devine qu'elle va être transfigurée à l'image de Jésus. Abordons notre thème. Après un couple confiant, un couple patient, un couple priant. J'ai décidé cette année-ci de commencer par une réflexion importante. La grande objection qui vous empêche de prier plus, que ce soit la prière conjugale, la prière familiale ou la prière personnelle, c'est une objection très valable pour des couples très occupés. C'est « est-ce que j'ai le droit de passer beaucoup de temps à prier ?» Il y a tellement d'urgence. C'est également le problème de vos prêtres surchargés de clochers. C'est le problème de tous les apôtres fort engagés dans l'évangélisation. Je suis pour la prière. Peut-être même, faites-vous partie de ceux qui envoient tous les ans un chèque important à une communauté contemplative pour que ces moines cérémoniales puissent continuer leur rôle de priant. Mais moi, honnêtement, je ne sais pas si j'ai le droit de consacrer tant de temps à la prière. Alors, s'il existait un topo capable de décider tous les chrétiens, et spécialement les hommes, à faire tous les jours 10 minutes d'oraison, ça serait. Ce topo serait traduit dans toutes les langues et distribué gratuitement par le Vatican. Non. Dans tous les diocèses, il y a au moins un prêtre qui a la simplicité de dire qu'il n'a découvert la l'importance de l'oraison que 25 ans après son sacerdoce.